Vous écoutez RTL.
RTL.
Qu'est-ce que tu veux trouver? Je te dis qu'on est les premiers hommes.
Je fouille. Oh!
Quoi?
Rien, rien, je m'entraîne pour quand je trouverai un truc.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous connaissez ma femme?
Oui, oui.
Elle est belle, hein?
Oui, oui.
La curiosité est un vilain défaut.
La préhistoire, selon Alain Chabat.
Et nous, avec on va ce parler... titre improbable, c'est quand même très drôle.
Improbable, agréable à dire. Bonjour Claudine Cohen.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Soyez la bienvenue, vous êtes philosophe et historienne des sciences. Alors, le destin des femmes et la parité femmes-hommes, c'est notre dada avec c'est Thomas vrai. Dans la curiosité et toute l'équipe. Et on s'est demandé d'ailleurs, comment ça se passait à la préhistoire? Est-ce que les hommes étaient représentés, comme ils sont représentés aujourd'hui dans nos manuels scolaires, souvent avec un gourdin tirant les femmes comme ça par les cheveux pour les emmener dans leur grotte où une marmaille affamée attendait ces femmes. Est-ce que ça se passait comme ça? Mais avant, d'où vient cette image qu'on a tous dans la rétine?
Mais écoutez, ça vient essentiellement des fantasmes des gens du 19e siècle.
Donc des historiens?
Des préhistoriens.
Des préhistoriens. Hein,
quand la préhistoire a été inventée, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, eh bien, c'était l'époque victorienne, c'était le moment où les femmes, vous savez, portaient des cols très très hauts.
Étouffants, là.
oui, et puis les jambes couvertes, enfin voilà. Elles n'étaient pas très sexy, il fallait absolument qu'elles soient des mères de famille tout à fait régulières. Et donc, il y a tout un fantasme de la sauvagerie qui va s'exprimer à travers les représentations de la préhistoire, ou alors de la mère, de la femme au foyer, entourée d'enfants. Et donc, il me semble qu'il y a eu beaucoup de projections sur ces mondes de la préhistoire, du présent des préhistoriens. Parce qu'au fond, on ne trouvait pas grand-chose qui permettait de parler vraiment objectivement de ces femmes, ou en tout cas, on ne le cherchait pas.
Et aujourd'hui, alors comment les historiens peuvent-ils connaître et parler de la place des femmes dans la préhistoire? On a trouvé des éléments comment on peut dire ça?
D'abord, ce sont des préhistoriens, hein, oui. C'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas avec des textes, mais qui travaillent avec des objets. Malheureusement, oui. Ces objets sont en général tout à fait morcelés, fragmentaires. Il y a des morceaux d'os, il y a des morceaux de cailloux, il y a des œuvres d'art. Et donc, le plus important, c'est évidemment de trouver des choses, mais c'est aussi de chercher. Hein, de chercher comment on peut cerner cette place et ce rôle des femmes dans la préhistoire.
Alors, c'est pas évident, parce que Claudine Cohen, la préhistoire, c'est une immense période. Ça va de quand à quand?
Bah, écoutez, ça va de 7 millions d'années avant le présent, hein, jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est très, 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 très large. Alors, on distingue les périodes les plus anciennes, hein, celles où c'était pas encore des Homo sapiens. Hein, Homo sapiens arrive autour de 50 000 en Europe, hein, 50 000 avant le présent, mais il existe déjà il y a 300 000 ans en Afrique. Et puis, autour de 10 000 ans avant le présent, eh bien, on change un peu de mode de vie avec le réchauffement climatique. On sort de la période des chasseurs-cueilleurs et puis on arrive à une période où les gens se mettent à se sédentariser, à cultiver la terre, à élever des animaux, etc. Donc les modes de vie changent. Donc tout ça, c'est la préhistoire, c'est-à-dire c'est une période pour laquelle on n'a pas de documents écrits. Hein, et on est obligé de trouver des choses à travers des morceaux de cailloux, des morceaux de terre cuite, des ossements, etc.
Alors, Claudine Cohen, vous publiez Femmes de la préhistoire aux éditions
Talendier.
On va commencer à rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette répartition des tâches entre les femmes et les hommes à la préhistoire?
Alors évidemment, quand on trouve un caillou, le caillou n'a pas de sexe, hein, même s'il est bien taillé, on ne peut pas dire immédiatement si c'est un homme ou une femme qui l'a taillé. Mais il y a des moyens de réfléchir à cela, en particulier, par exemple, en s'intéressant au peuple de chasseurs-cueilleurs actuels. Hein. Je ne dis pas que ce sont des sauvages de la préhistoire, je dis que ce sont des gens qui ont un mode de vie qui ressemble un peu à ce que vivaient les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire.
Ils nous apprennent quoi?
Et on se rend compte que chez ces chasseurs-cueilleurs, eh bien, les femmes ont un rôle immense.
On va continuer de faire tomber les clichés dans la curiosité. Vous allez découvrir dans un instant pourquoi les femmes préhistoriques n'étaient absolument pas frêles, gracieuses. Non, c'était même des athlètes. À tout de suite sur RTL.
RTL.
Durant des siècles, les femmes ont été écartées des disciplines scientifiques. Et s'il y a bien une spécialité qui a été jalousement gardée par les hommes, c'est la paléontologie et l'anthropologie.
Tu sais qu'hier, Sylvain, il a découvert le feu?
Non, Sylvain?
L'autre débile, hein? Sylvain, t'as inventé le feu?
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Quand les humoristes du Palmachot imaginent la préhistoire, bon forcément, c'est de la fiction et c'est de l'humour.
Donc c'est pas Sylvain.
Bah non, voilà, c'est pas ça. Le quotidien des femmes préhistoriques dans l'œil de notre curiosité avec la philosophe et historienne des sciences, Claudine Cohen. Alors, on a commencé à chasser un certain nombre d'idées reçues et on va continuer grâce à vous avec notamment ce que vous appelez la révolution des grands-mères. De quoi s'agit-il ?
Ah, la révolution des grands-mères, c'est une chose très intéressante. D'abord, il faut voir que l'humain est caractérisé dès la préhistoire probablement par la famille, hein. La famille élargie, pas seulement le couple et l'enfant, oui. Mais certainement les fratries, les grands-pères, les grands-mères, les cousins, etc. Voilà. Donc c'était des groupes importants et on s'est interrogé sur le fait que les femmes survivaient à leur période reproductive. Chez la plupart des mammifères, la femme se reproduit et puis quand elle ne se reproduit plus, elle meurt. Oui. Or, dans l'humanité, nous avons ce qu'on appelle la ménopause, hein, c'est-à-dire le fait qu'on peut survivre, et très bien, hein, souvent en très bonne forme, pendant longtemps, après la reproduction.
Bien sûr, alors, et donc ça s'explique par le rôle que jouaient ces femmes après la ménopause.
Une hypothèse, oui, qui me paraît très intéressante, c'est que ces femmes ménopausées avaient un rôle social très important, hein, celui en particulier de s'occuper des enfants, hein, parce que l'enfant humain n'est pas fini, hein, il a besoin de beaucoup de soins, et donc peut-être que ces femmes âgées ou plus âgées s'occupaient des enfants, ce qui libérait les femmes plus jeunes pour d'autres activités. Hein,
qu'elles pouvaient travailler.
Elles pouvaient travailler, femmes. Elles pouvaient partir à la cueillette, elles pouvaient faire fabriquer des outils, elles pouvaient faire toutes sortes de choses. Et sans doute que ces femmes plus âgées avaient aussi de quoi transmettre, hein, aux enfants. Et donc il y aurait ce rôle très important de la grand-mère.
La révolution des grands-mères. Claudine Cohen, vous publiez Femmes de la préhistoire aux éditions Talendier et on y apprend notamment que l'image de la femme préhistorique, vous savez, cette image de la femme frêle, gracile et fausse. Pourquoi, à quoi ressemblerait-elle cette femme en fait ?
Alors, il faut voir, comme je l'ai dit, que les temps préhistoriques sont très vastes, très larges, que c'est très difficile de dire des généralités sur cette très très longue période.
Bien sûr.
Et donc, il y a des époques où on sait que les femmes étaient particulièrement robustes.
Mais robuste comme un bonhomme ?
Oui, comme un bonhomme. Par exemple, un exemple tout à fait remarquable est celui de la découverte à la fin du 19e siècle d'une sépulture des temps paléolithiques où les hommes étaient chasseurs-cueilleurs. Et alors, c'était un squelette très robuste qui était orné de coquillages, donc quelqu'un qui avait été honoré, hein, après sa mort.
Comme chef peut-être ou
alors, on a dit c'est un chef. Voilà.
Et c'est un homme, on a dit aussi, j'imagine.
C'est l'homme de Menton. Voilà. Et puis, dans la région, et plus dans la péninsule italienne, on a découvert d'autres sépultures exactement semblables, avec des ornements, avec la même position du squelette, etc. Et dans une de ces sépultures, il y avait un fœtus qui était encore dans le ventre de la personne, et c'était une femme.
Et donc cette femme était robuste.
Et du coup, on s'est mis à relire tous ces squelettes, et l'homme de Menton, on s'est aperçu, en regardant de plus près, qu'il s'agissait d'une femme. Et si vous allez aujourd'hui au musée de l'homme, eh bien, l'homme de Menton est devenu la femme, la dame du Cavillon. Voilà. Donc c'est un regard qui était un peu biaisé. Hein. Si c'était orné, si c'était robuste, c'était forcément un homme. Mais à cette époque, il se trouve que les femmes étaient particulièrement costauds.
Alors pourquoi serait-elle devenue plus gracile au fil du temps ? C'est quoi ? C'est la sélection naturelle ? Comment
La sélection, plutôt ce que Darwin appelle la sélection sexuelle.
Oui.
La sélection sexuelle, c'est le fait que les sexes se choisissent. Hein. Les hommes choisissent les femmes qui leur plaisent. Oui. Les femmes choisissent les hommes qui leur plaisent. Et souvent, c'est plus les hommes, hein, qui ont le choix. Et une hypothèse qui a été émise, bon, elle est aujourd'hui discutée, mais elle est intéressante, est que probablement les hommes ont préféré, surtout à l'époque néolithique, hein, au moment où on devient plus sédentaire, ont préféré des femmes plus graciles, justement, par pour des raisons esthétiques, mais aussi peut-être pour les dominer plus facilement.
Elles sont moins costauds aussi, ces femmes, parce qu'elles se sédentarisent, c'est ce que vous dites, et donc il n'y a plus besoin de faire ces longues marches de cueillette et de chasse.
Ça ne signifie pas qu'au temps néolithique, il n'y a pas besoin aussi de travaux de force. Hein. Et on sait que les femmes ont toujours beaucoup travaillé dans les sociétés préhistoriques, comme dans nos sociétés d'ailleurs.
Alors tiens, justement, on va parler de bricolage, mais aussi on va voir le côté artistique de ces femmes préhistoriques. Ce récit passionnant continue sur RTL dans un court instant. Restez avec nous.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Pourquoi, quand on pense à la préhistoire, il n'y a que des hommes? Pourquoi, dans nos têtes, l'homme chasse et peint alors que la femme cueille et fait cuire le mammouth?
La curiosité est un vilain défaut.
La préhistoire a très longtemps été une discipline d'hommes.
RTL.
Rémi Sulmont d'RTL qui nous explique pourquoi la préhistoire était longtemps une discipline d'hommes. Vous êtes d'accord avec ça, Chloé Cohen? Vous êtes philosophe, historienne des sciences.
Je pense que la discipline elle-même a été pratiquée par des hommes, et souvent des hommes costauds, barbus, parce que le terrain, c'est difficile. Hein. Il faut aller au fin fond de l'Afrique, il faut passer des journées à fouiller dans la terre, etc. Et très souvent, c'était des hommes qui ont exercé la préhistoire, aussi parce que les professions scientifiques étaient réservées aux hommes pendant très très longtemps.
Et c'est ce qui explique qu'ils n'ont pas mis forcément à l'honneur ces femmes et la place des femmes dans la société.
Sans doute, il y a un grand machisme aussi des scientifiques.
Alors en tout cas, aujourd'hui, on découvre, on comprend que la femme préhistorique avait sa place aussi dans la fabrication des outils. Quels outils et comment? Qu'est-ce qui permet de découvrir ça?
Alors, on n'a pas de preuves absolues, mais on a toujours, quand il s'agit de préhistoire, on a surtout des hypothèses. Alors, ce qu'on connaît de la préhistoire, essentiellement, sont des cailloux taillés. Plus tard, des cailloux polis. Donc, il y a une immense quantité de ces objets, qui d'ailleurs progressent tout au long des temps préhistoriques. Et jusque-là, on voyait l'image du tailleur, de l'homme assis avec son enclume, son percuteur qui fabriquait l'objet qu'il voulait. Et il y a eu des préhistoriens qui se sont intéressés à ces fabrications en se livrant à des expérimentations. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes tailler ces outils. Alors, ça donnait beaucoup d'éléments de compréhension sur la manière dont ils étaient fabriqués, sur la force qu'il fallait, sur les angles, etc. Et puis, on s'est mis à demander à des femmes de le faire. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas
très
plus
bien.
Difficile pour une femme de tailler un outil de pierre que pour un homme. Et que c'était une question beaucoup plus d'habileté, d'intelligence que de force musculaire, même s'il n'y avait pas forcément un très grand dimorphisme.
Et la dimension artistique, comment est-ce qu'on peut, en allant voir les grottes les plus préhistoriques, les plus connues, se dire c'est un homme ou c'est une femme qui a peint ces œuvres magnifiques?
Pendant longtemps, la question ne se posait même pas. Et je disais tout à l'heure, il faut chercher les femmes. Et il faut se poser les bonnes questions. La bonne question, c'est est-ce que les femmes ont pu réaliser ces peintures pariétales que nous admirons tellement? Alors, il y a un chercheur américain qui s'est intéressé aux mains, vous savez, aux figurations de mains sur les parois, et qui sont très nombreuses, et qui sont à toutes les époques du paléolithique supérieur. Et il s'est intéressé à la morphologie de la main et à la différence de la morphologie entre les hommes et les femmes. Alors, il y a quelques petites différences dans la taille, en particulier de l'index et de l'annulaire, et dans la proportion de l'index et de l'annulaire. Et en étudiant donc ces images de mains, il a fait un logiciel, il a étudié ça de façon très sophistiquée, et il s'est aperçu que beaucoup de ces mains pouvaient être des mains féminines, par leurs proportions. Et ça, c'est une révolution. D'abord, ça veut dire que les femmes étaient présentes dans ces grottes. Il y avait certainement des rituels qui se faisaient dans ces endroits. Mais aussi, lorsque ces mains se trouvent autour, par exemple, d'un panneau, comme le panneau de Pechmer, un magnifique panneau de chevaux pommelés, eh bien, il y a toute une série de mains autour. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire « j'étais là » j'ai fait un rituel au moment où la peinture a été faite, ou après. Est-ce que ça veut dire j'ai fait moi-même ce tableau? Ça pourrait être une signature. Et donc, toutes ces hypothèses sont très intéressantes. Évidemment, on n'aura jamais une preuve absolue, mais au moins, on ouvre la question et on se dit que les femmes, tout autant que les hommes, ont très bien pu réaliser certaines des peintures rupestres. Pas toutes, évidemment, mais en tout cas, une partie.
Est-ce que vous vous dites, Claudine Cohen, quand vous observez ces hypothèses, que finalement, à l'époque préhistorique, même si elle est très très vaste, évidemment, ou en tout cas dans certains de ces moments de la préhistoire, la parité homme-femme était plus accomplie qu'aujourd'hui?
On peut être un peu partial. Moi, j'aime beaucoup les hommes préhistoriques. Surtout, je pense que c'était des hautes civilisations, que ces civilisations de chasseurs-cueilleurs de la fin du paléolithique. Et il semble que pour qu'un peuple de chasseurs-cueilleurs survive et vive confortablement, eh bien, il faut qu'il y ait une certaine égalité entre les hommes et les femmes. En tout cas, une égalité quant à la subsistance et quant à l'accès à la nourriture, par exemple. Une certaine égalité aussi dans la distribution des tâches. Et on peut imaginer que ces chasseurs-cueilleurs, ces nomades du paléolithique supérieur, c'est-à-dire à l'époque où Homo sapiens vivait dans l'Europe, avec les glaciations, etc., eh bien, il y avait des rôles relativement égalitaires entre les hommes et les femmes.
Alors, pourquoi tout a changé un jour? Pourquoi les rôles se sont pas inversés? Mais pourquoi l'homme a pris un peu de domination, d'ascendant sur les femmes? Peut-être une réponse dans un instant, dans la curiosité.
Et puis, dans la seconde partie de l'émission, la disparition des plantes, 15% d'entre elles disparaît. Quelles conséquences pour notre écosystème et notre vie au quotidien? Réponse juste après la pause.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sur RTL.
On découvre le quotidien des femmes préhistoriques avec la philosophe et historienne des sciences, Claudine Cohen. Et cette question, à partir de quand les femmes dans la préhistoire ont commencé à être soumises aux hommes? Parce que vous nous parlez quand même d'une période assez formidable où femmes et hommes se partageraient, il faut parler au conditionnel, les tâches. Et pourtant, comme on l'a vu ces dernières décennies et même ces derniers siècles, il y a quand même une différence de traitement et de droit entre les hommes et les femmes. Ça arrive quand? Ça.
Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de domination pendant le paléolithique. J'ai dit qu'il y avait une distribution égalitaire des ressources. Il fallait que tout le monde mange bien, c'est des vies très, très dures. Et probablement une distribution assez égalitaire des tâches. Alors, ça ne signifie pas que dans la vie quotidienne, dans l'aspect symbolique des choses, dans l'organisation de ces groupes, il n'y avait pas une domination masculine. Et je pense que cette domination masculine a dû toujours exister.
À quel moment ça bascule alors?
Alors, je pense qu'elle a dû s'accentuer, cette domination, à l'époque néolithique. Je pense qu'au moment de la sédentarité...
C'est la fin de la préhistoire, c'est ça l'époque néolithique.
Dans les 10 000 dernières années, ça fait quand même beaucoup de temps. Et je pense qu'à partir du moment où il faut cultiver la terre, il faut faire beaucoup d'enfants pour travailler sur la terre, il faut aussi s'approprier des espaces, et le fait que les femmes restent sédentaires, le fait qu'elles élèvent beaucoup d'enfants, ce qui n'était probablement pas le cas dans les périodes antérieures, elles s'arrangeaient pour avoir peu d'enfants, parce que quand vous êtes nomade, vous n'allez pas vous trimballer avec toute une marmaille. Au contraire, au paléolithique, eh bien, il semble que les femmes soient devenues plus attachées à cette sédentarité. À cette
au vie. Néolithique
Oui, au néolithique. Et donc, je pense que ça a commencé à signer une certaine inégalité entre les hommes et les femmes, et une domination accentuée entre les hommes et les femmes.
Merci beaucoup. Claudine Cohen, c'était passionnant, c'est vrai que c'est un grand sujet, on y reviendra peut-être encore un jour, et on peut lire en attendant Femmes de la Préhistoire, c'est aux éditions Talendier. Merci à vous.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.